Explore, un podcast de l'Église évangélique réformée de Suisse pour découvrir l'Église qui arrive et un monde transformé par la foi. Bienvenue à vous tous et toutes pour ce sixième épisode d'Explore. Peut-être avez-vous déjà entendu le terme interculturalité, ou peut-être que vous le découvrez en écoutant cet épisode. C'est une dynamique qui aujourd'hui donne forme au visage de l'Église. Et pas simplement, on peut dire, peut-être oui, de la rencontre à l'étranger, dans la mission, non. Ici aussi, en Suisse, on est concerné par cette interculturalité, notamment du fait des vagues migratoires. Et peut-être que c'est une réalité qui nous concerne en fait depuis toujours en Église. Donc, une mosaïque de cultures dans une même paroisse, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, et de quoi peut ressembler une telle mosaïque. Alors, je suis pas seul pour parler de cette paroisse interculturelle. Je suis avec une animatrice d'église. J'ai un peu cherché sur Internet ce qu'on peut dire d'elle. C'est les rencontres en profondeur qui la passionnent et qui la remplissent de reconnaissance. C'est une personne qui a étudié la théologie via les lettres. Elle a un parcours dans l'enseignement, dans la catéchèse, active en église depuis longtemps. Le tricot lui permet de fixer ses pensées. Et puis, je vais pas cacher ton nom plus longtemps. Je suis avec Anne Rocha. Salut Anne.
Bonjour.
Oh, on s'est dit qu'on se tutoyait, on s'est rencontrés aujourd'hui, oui. Mais on est tout de suite passé au tu. Et donc, on est ici dans la paroisse de Bellevaux-Saint-Luc, et je vais appeler ça une paroisse mosaïque, ou c'est un peu le nom que j'entends traîner. Donc, pour parler d'interculturalité, mais en fait, dans la discussion qu'on a eue en préparant cet enregistrement, j'ai remarqué que ce serait un peu rapide de réduire ce qui se passe à Bellevaux-Saint-Luc à l'interculturalité. Il y a tout plein d'autres enjeux. Alors, on parlait au fond d'innovation, de rejoindre de nouvelles personnes. Peut-être on reprend le fil déjà là. Ça ressemble à quoi Bellevaux-Saint-Luc en termes de rencontrer de nouvelles personnes?
Alors, c'est un travail de renouveau qui a commencé en fait avant que j'arrive, déjà au moment où Dominique Samuel Burna était le pasteur ici. Il avait commencé en fait à réfléchir à la manière de réouvrir cette paroisse qui, comme toute la plupart de nos paroisses, enfin, était vieillissante et assez monocolore, vers l'extérieur. Et je ne sais pas exactement depuis quand l'Église réformée camerounaise se réunit ici, mais en tout cas, c'était déjà le cas au moment où je suis arrivée. Et l'Église érythréenne pentecôtiste qui utilise nos locaux aussi était déjà là. Mais avec, je dirais, une présence peut-être éloignée qu'aujourd'hui, dans le sens où leur culte avait lieu dans nos locaux, mais on se rencontrait de manière assez épisodique, occasionnellement. Souvent quand quelque chose n'avait pas marché, c'est-à-dire quand les miettes n'avaient pas été balayées après l'après-culte, ou quand quand il y avait un problème.
Par les traces que les autres laissent quand ils sont pas là.
Exactement.
Peut-être pour ceux qui ne savent pas, Bellevaux-Saint-Luc, c'est donc une paroisse de Lausanne. Donc on est dans les hauts de la ville de Lausanne, dans un quartier. Comment tu décrirais le quartier de Bellevaux-Saint-Luc? En fait, je me rends compte que c'est un coin où je vais presque jamais. On passe toujours à côté quand on monte direction la Blécherette, mais on tourne pas à droite. Et là, tout d'un coup, on arrive dans ce quartier. À quoi ressemble ce quartier?
Alors c'est un quartier qui a un caractère ouvrier au départ, il y a longtemps. On a d'ailleurs en fait un très bel ensemble de maisons ouvrières qui est classé dans le quartier. Et puis, c'est depuis longtemps un quartier plutôt modeste socioculturellement et très bigarré de ce fait-là, parce qu'on est dans un coin où les loyers sont peut-être un peu plus abordables que dans d'autres quartiers de Lausanne. On a beaucoup d'appartements subventionnés ou d'appartements protégés, pas mal de foyers aussi. Donc, on a des personnes, on a une abondance de personnes avec des difficultés psychiques. On a beaucoup de gens qui sont des primo-arrivants qui viennent de débarquer chez nous en Suisse. Donc, c'est un quartier plutôt, on pourrait dire, pauvre. Et je pense que cette pauvreté, dans une certaine mesure, est une chance vraiment pour nous.
Un point de départ.
On n'a pas ici, je dirais même dans la paroisse traditionnelle qui était là, je pense qu'on n'avait pas tellement des personnes qui ont tout et le reste. Donc, on a encore des personnes qui avaient peut-être besoin, d'une certaine manière, de la vie communautaire qui est offerte dans une paroisse, des activités qui sont offertes, etc. Donc ça, je pense que c'est vraiment de là qu'on est parti. Et Dominique, dans les premières choses qu'il a faites, il a, je pense, effectivement, s'est rapproché du responsable de l'église camerounaise et du responsable de l'église érythréenne, d'une part. Il leur a parlé, ce qui est
déjà un point de départ.
Tout à fait, un point de départ. Et puis, il a aussi décidé d'ouvrir une salle de spectacle au rez de notre église.
Ici aussi à Bellevaux ou bien...
Ici, elle est juste en fait sous l'église. Et d'y créer un programme culturel annuel, voilà, qui permettait de faire venir les gens du quartier dans les locaux sans enjeu religieux. Pour simplement qu'ils entrent là et voient que c'était pas dangereux et que voient qu'ils aient vu les lieux, quoi, qu'ils ils osent entrer dans ces lieux. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus du tout une évidence, hein, que quelqu'un ose entrer dans une église ou dans les locaux d'une paroisse.
Donc ça, c'était les deux pistes, hein, donc la rencontre de ces communautés qui sont déjà là, avec qui tu travailles. Toi, tu cites Dominique Samuel Burnat, donc il n'est plus ici à Bellevaux-Saint-Luc maintenant. Ça remonte à combien de temps en arrière?
Alors, il a fait 7 ans de ministère et ça s'est terminé il y a 2 ans. Donc, ça faisait 5 ans qu'il était là quand je suis arrivée. Ah, c'est clair qu'il y a une partie de l'histoire qui m'échappe parce qu'il y a peut-être des choses qui seraient déjà racontées dans cette histoire de renouveau puis qui sont plus anciennes mais que je connais pas puisque je ne travaille ici que depuis 3 ans et demi.
Tu es arrivé dans un contexte où le lien entre les communautés était déjà
d'émerger.
D'émerger, en tout cas via ses leaders, entre guillemets. Donc, le lien par les communautés, le lien population plus large via la salle, et je sais qu'il y avait aussi un projet de jardin autour du temple.
Voilà. Alors moi, je suis arrivée avec un parcours, en fait, qui fait que, ayant passé par la catéchèse, l'effondrement, en fait, des rangs de notre église, je l'ai vu vraiment en direct, mais il y a de ça 20 ans. Dans la paroisse où je travaillais avant, bénévolement, on a passé en fait de volées qui s'inscrivaient, nous voyons une circulaire, on avait un quart de la volée qui s'inscrivait, puis on se retrouvait avec 40-50 gamins sans faire le moindre effort, voilà. Et puis je dirais, en 3 à 5 ans, on a passé de ça à un enfant inscrit.
Ah ouais.
Donc,
c'est pas une courbe progressive, ça.
Absolument pas une courbe progressive, ça a été un pic, ça a été vraiment un trou, en étant. Et ça correspondait à la période où, en fait, il y avait plus de fichiers, la ville ne nous donnait plus de fichiers au fond. Et en fait, on a perdu pied, vraiment, quelques années. Donc, en fait, ça m'a beaucoup questionnée à l'époque parce que le travail qu'on faisait était toujours très bon. Les quelques rares personnes qui venaient encore étaient toujours très contentes. On avait fait un travail de catéchèse plutôt innovant, donc je me sentais pas du tout, je savais que le problème venait pas d'abord de ce qu'on offrait, mais il venait d'abord du fait que les gens n'étaient plus intéressés par notre offre, voire surtout qu'ils ne la connaissaient plus.
Elle est plus lisible.
On avait plus d'accès. Voilà, c'est ça. Donc je me suis dit, comment on sort du bocal? Et c'est une question qui m'a animée, en fait, depuis, moi, je dirais quand même 15 à 20 ans. C'est pas nouveau pour moi, ça, cette question. Et puis, quand je suis arrivée ici, j'ai senti qu'il y avait un potentiel, enfin, il y avait un désir de renouvellement. Et que c'était ce qu'était en train de chercher le pasteur qui était là. Et quand je suis arrivée et qu'il m'a engagée comme animatrice à ce moment-là de paroisse, je lui ai dit, je vais ouvrir un point d'appui scolaire. C'est la toute première chose que j'ai fait en arrivant. Voyons que le quartier était très multiculturel. Je me suis dit, avec mes compétences d'enseignante, je vais ouvrir un point d'appui scolaire gratuit. Gratuit, ça c'est important.
Là, c'est clair, ouais.
Les premiers enfants qui sont arrivés, ils me disaient, ton stylo, il a coûté combien? Et ils étaient soucieux de savoir combien les choses coûtaient. Puis j'ai vraiment senti que je répondais là à un besoin. Et puis j'avais pensé cet endroit-là comme un endroit pour faire connaissance avec les parents et puis pouvoir peut-être déjà donner un coup de main vraiment un service comme un service diaconal, mais peut-être aussi comme un point d'entrée. Puis en fait ça s'est pas du tout avéré ce que je croyais, c'est-à-dire que c'était pas des enfants qui passaient demander un coup de main occasionnel, ça a été tout de suite une fidélisation complète qui fait que 3 ans et demi après, certains des enfants qui étaient là sont toujours là. Et en fait, on a plutôt donné un coup de main en profondeur, je pense avec un accent, un petit accent quand même sur l'intégration. J'ai plusieurs mamans qui, par le biais de l'appui scolaire, se sont remis à faire du français, ont trouvé ensuite du travail. Et en fait, les personnes qu'on a amarrées à la communauté de cette manière-là, ce sont pas les utilisateurs du point d'appui scolaire, ce sont en fait les dames qui font l'appui scolaire avec moi. Donc, c'était pas ce que j'avais prévu. Ça n'a pas été la porte d'entrée comme je l'ai prévu. Mais par contre, ça continue d'être un endroit où je pense qu'on a un vrai service.
Donc là, tu parles d'appui scolaire. Moi, j'ai mentionné un jardin avant, mais peut-être que
Alors ça a été le deuxième projet innovant qui n'est pas venu de moi, il est venu d'une dame du quartier qui aime le jardinage urbain et qui avait repéré que la ville de Lausanne propose aux habitants, en fait, de créer des projets participatifs et les finance. Mmh. Alors, avec son aide, en fait, on a concouru en tant que paroisse pour créer un jardin urbain devant notre temple.
D'accord.
Où il y a une petite place moche qui sert de parking, puis on souhaitait en faire un lieu convivial, qui là aussi nous amènerait en fait un contact, une interface avec le quartier.
Mmh, mmh.
Alors pour le moment, en fait, ce projet, on a un financement qu'on a reçu de la ville, et puis il est toujours en fait en cours avec une petite équipe qui pour le moment ne plante pas grand chose, mais travaille avec la ville pour rendre possible l'émergence du jardin. On n'a pas d'eau en fait sur place, donc on est dans des problèmes d'eau et de permission et de permis de faire les choses pour le moment. Donc ça avance lentement, mais je pense que ça sera dans quelques temps un très joli lieu d'interface, ce lieu-là.
Il y a des projets qui sont encore à l'état de bourgeon, peut-être.
C'est ça, oui.
Donc, j'avais pas pensé à que ce lien-là pouvait se faire, mais c'est vrai que tu parles du... Je reviens sur l'appui scolaire que tu offres, qui te met déjà en contact avec peut-être une population qui n'est pas habituée à nos églises, en tout cas qu'on va pas croiser tout de suite dans le travail en église. Comment se passe pour toi, parlons vraiment de cette dimension d'expérience personnelle, qu'est-ce que c'est que de rentrer dans cette rencontre? Là, il y a deux choses quand même, il y a une rencontre entre classes sociales, une rencontre entre cultures.
Oui.
Comment l'un influence l'autre? Est-ce que l'un a quelque chose à voir avec l'autre ou pas? Enfin ouais, j'imagine qu'il y a des choses qui se mélangent.
Alors disons, dans l'appui scolaire, je suis en fait assez... discrètement, je sors pas trop le drapeau. Enfin, je veux dire, on fait de l'appui scolaire. On rend vraiment un service scolaire. Donc, je me permets pas je vais jamais faire du prosélytisme là, quoi. Ce serait déloyal. Donc, je dirais, cet endroit-là, dans notre travail, il est effectivement un petit peu en marge par rapport au centre de la communauté. Mais je le trouve important au titre de témoignage, parce que malgré tout, les gens qui viennent là savent que moi, je travaille pour la paroisse. Et de temps en temps, il y a des questions qui émergent, et puis à ce moment-là, on peut parfois en parler, mais ça vient jamais de moi. J'attends que ça...
Quand tu offres le service, tu donnes le cadre.
Voilà, c'est ça, exactement. J'ai des enfants qui sont, par exemple, musulmans, qui viennent ici, donc je suis très respectueuse, et là, je vais pas marcher sur les plates-bandes des autres. J'ai des enfants tamouls qui sont hindouistes, donc voilà, alors... J'ai plutôt des enfants qui viennent vraiment d'autres cultures religieuses. Ouais.
Là, tu offres un service dans le cadre de l'appui scolaire. La paroisse, là, ce qui est en train de se passer a quand même quelque chose d'assez différent. Peut-être qu'on est un peu habitué à rendre des services en église. On aime bien aussi vendre le service qu'on rend. Et puis, ça fait partie, effectivement, de notre réalité. Là, ce qui est différent, c'est que l'idée, au fond, de restructurer la paroisse assez différemment dans sa dynamique communautaire.
Voilà.
De faire que les communautés de migration qui sont présentes sur ce territoire, donc des réformés camerounais et des érythréens pentecôtistes, je ne sais pas dans quel sens il faut donner le qualificatif, mais enfin, dans ces horizons-là, sont pas simplement des bénéficiaires de quelque chose que vous proposez, mais partie prenante de la construction de la communauté.
Oui. Alors je dirais que ce chemin qu'on avait commencé, il s'est en fait amplifié au moment où mon nouveau collègue Jules Nérin est arrivé, diacre.
Donc là, on est 2 ans en arrière. On est en
voilà, c'est ça. On est il y a 2 ans, exactement.
22.
Ouais, on était en septembre. Voilà. Jules bouclera ses 2 ans cette année en septembre.
Ouais.
Donc, à ce moment-là, en fait, cette envie de travailler de manière plus communautaire avec les deux communautés présentes, c'est devenu vraiment le cœur du projet. Ce qui s'est passé, en fait, quand on est arrivé, c'est que, je dirais, Jules et moi, on a senti qu'on avait vraiment un désir commun d'ouvrir cette paroisse vers l'extérieur, de tâcher de faire vraiment ce travail de renouveau. Mais on n'allait pas pouvoir le faire seul, il fallait vraiment que la communauté puisse nous suivre. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est d'organiser une retraite avec notre conseil paroissial. Et on y a invité, en fait, les pasteurs et l'ancien responsable des deux communautés en question à cette retraite. Et puis, là, on a vraiment fait un bilan de l'état dans lequel on est et de ce qui se passerait si on ne fait rien, à savoir, grosso modo, on va disparaître si on ne fait rien. Et tout le monde était d'accord sur ce constat. Puis ensuite, on a cherché ensemble la manière dont on pouvait faire pour voilà pour s'en sortir et pour faire quelque chose de nouveau. Et on a réussi à se mettre d'accord sur un certain nombre d'objectifs et on a décidé en fait que le culte serait en fait l'endroit où on allait essayer de faire émerger cette nouvelle manière de travailler. Donc on aurait pu le faire dans le domaine social ou hein, dans la diaconie ou dans d'autres choses, mais on a dit que c'est le culte qu'on allait mettre au centre et qu'on allait en fait faire de ces cultes des cultes mosaïques précisément qui incluraient beaucoup plus les communautés amies et puis au fond qui incluraient beaucoup plus la diversité aussi qui était déjà présente dans la communauté toute petite qu'on avait là et assez âgée, mais qu'on allait vraiment travailler dans ce sens parce que ça se prêtait à ça, étant donné le quartier dans lequel on est.
Et à cette étape-là, peut-être que j'ai mal compris, mais les responsables des deux communautés sont présents dans le monde de la retraite.
Ils sont présents de manière informelle dans la retraite du conseil.
Voilà, ok.
Mais sans appartenir au conseil.
C'est ça.
Et puis, ce qui est devenu très, enfin, ce qui était très clair pour nous quand on est sorti de la retraite, c'est que il fallait qu'on renouvelle la forme de nos cultes de manière profonde. Parce que si la forme de nos cultes ne bougeait pas, elle est inaccessible pour un public non affilié. Et au particulier la musique.
Et là, quand tu dis non affilié, tu penses justement à ces communautés, à cette communauté camerounaise, à cette communauté pentecôtiste qui sont dans vos locaux, ils sont déjà, ils se posent la même question, au fond.
Alors, je dirais pour les Érythréens, ce qui nous a surpris et qu'on ne savait pas, en fait, c'est qu'ils se posent la même question. C'est-à-dire que leurs jeunes, à eux, filent aussi dans les églises évangéliques de Lausanne.
Okay.
C'est trois pour pas les nommer.
Oui.
Voilà, parce que là, c'est ça. Parce que là, ils trouvent justement un langage d'aujourd'hui, une musique d'aujourd'hui, et des gens qui leur parlent comme à des gens d'aujourd'hui. Et qu'en fait, ce qu'on savait pas, c'est qu'il y avait aussi des tensions dans la communauté érythréenne, parce que les jeunes réclamaient les cultes en français, alors que les cultes de base sont dans la langue maternelle. Et voilà, les jeunes qui sont scolarisés ici, nés ici, ils se sentent un peu à l'étranger dans le culte de leurs parents, en fait. Alors ça nous a intéressés ou inspirés, finalement. On s'est dit, il y avait peut-être un travail à faire pour qu'on puisse créer ensemble, en fait, quelque chose qui permettrait d'accueillir des gens plus jeunes. Alors, on a demandé ensuite l'autorisation à notre assemblée de pouvoir faire un premier essai de quelques mois, où on allait effectuer des changements et ensuite on tirait un bilan.
On est sur le culte.
On est sur le culte à ce stade-là. Oui, exactement. Alors, on a modifié la manière dont les chaises sont installées. Il se trouve que notre orgue était tombé en panne, qu'on savait pas encore définitive, mais qui entre-temps est devenue définitive, et que l'orgue ne sera pas remplacé dans notre église. Donc, ça veut dire que la musique, à partir de ce moment-là, a dû se faire au piano. Et on a en fait engagé un pianiste qui nous fait des arrangements modernes de cantiques traditionnels. Et on a commencé à faire un mix de musique entre des musiques venues un peu plus du monde évangélique et des musiques venues de notre psautier mais réarrangées pour que tout ça prenne
une autre couleur musicale, notre identité culturelle aussi du coup pour ce culte disons là.
Pour dire les choses peut-être un peu rapidement, on a adopté des formes plus évangéliques dans le culte sans que la théologie qui est réformée soit modifiée en profondeur.
Mais du coup vu que ça se fait en rencontre aussi avec des communautés avec cette communauté issue du Cameroun, cette communauté issue d'Érythrée, mais pentecôtiste. Donc, j'imagine qu'il y a quand même une rencontre qui se fait ici au niveau du contenu théologique, non ?
Donc, ça nous arrive d'avoir de longs chants érythréens, méditatifs, un peu comme ça, de trance, en fait.
Ouais.
Voilà, ça nous arrive de... Enfin, les communautés amies sont au micro, sont des lecteurs, sont des liturges pour nous, amènent leurs chants, amènent des prières.
Ouais.
Voilà, ça nous arrive de chanter dans une autre langue. Enfin, on a commencé à faire des mélanges. Ce qu'il faut dire, c'est que ce qui est important peut-être aussi, c'est que on a des cultes festifs où les trois communautés viennent et apportent chacune des éléments. Et puis on a aussi des cultes qui restent séparés. Donc il y a aussi des parties de notre vie cultuelle en fait où chacun le vit de son côté à sa manière pleinement.
Selon ses codes.
C'est ça, selon ses codes pleinement. Et ça, ça coexiste. Donc, c'est intéressant. Et puis, ça permet, on tâche de se rendre aussi des visites, plus les ministres que les fidèles. Mais ça nous arrive à Julie et à moi d'aller un moment au culte des amis pour...
Qui a lieu, du coup, ici aussi.
Voilà, on est toujours dans les mêmes locaux. Peut-être, ce que je peux ajouter, c'est que ce qui s'est modifié aussi dans le culte, c'est qu'on a fait des cultes où, en fait, il y a beaucoup plus d'intervenants qu'avant. Voilà. Donc, on a mis au point, en fait, une armature liturgique qui est fixe, enfin, qu'on modifie au fur et à mesure de l'année liturgique, mais où, en fait, on suit toujours un peu le même schéma. Mm-hmm.
Donc, l'ordre du culte ne va pas être révolutionné à chaque culte.
Non, l'ordre du culte, il est extraordinairement traditionnel, à part qu'on a un gros bloc de louanges, relativement à l'entrée du culte, qui nous permet, en fait, d'avoir un moment de culte assez bruyant au début. Et ce bruyant, il est voulu, il a été pénible pour nos aînés qui parfois, avec leurs vieilles oreilles, ont un petit peu de peine à aimer ça. Mais ils se sont aussi habitués, hein, peu à peu, parce que on voulait avoir la possibilité que les enfants ne dérangent pas. Donc oui, le moyen que les enfants ne dérangent pas, c'était de sortir d'un culte qui soit extra silencieux et complètement intérieur. Donc au fait, ce culte mosaïque, il est beaucoup plus, festif et expressif que ne serait un culte habituel.
Parce que ça, c'est aussi un enjeu, du coup, que les différentes générations... J'imagine qu'il y a des familles, du coup, qui viennent dans ces communautés, qui ont besoin de ce lieu, d'ailleurs, pour leur équilibre dans la semaine.
Alors, cela commence, je dirais que... Là aussi, c'est pas tout à fait ce qu'on avait prévu, parce qu'on a commencé par créer un coin famille agréable et confortable, et par faire savoir aux familles qu'on connaissait qu'elles étaient les bienvenues désormais, et par rendre notre culte famille compatible dans le sens où justement où on a tâché de sortir de quelque chose qui nécessite une complète intériorité. Je dis juste en passant que on a fait aussi un gros travail pour pouvoir continuer à dialoguer avec la partie plus traditionnelle de la paroisse, pour trouver aussi à cette partie plus traditionnelle de la paroisse des moments dans la semaine et des lieux dans la semaine où elle pouvait continuer de vivre une vie culturelle plus intérieure. Et ce sont nos recueillements du jeudi matin ou les cultes qu'on donne dans notre deuxième lieu de culte le dimanche. À Wajonti, au centre écuménique de Wajonti. Oui. Là, on a des cultes de facture plus traditionnelle et qui sont une partie tenue par une équipe laïque, ce qui est aussi assez novateur. Donc, de manière à ce que le ministre puisse survivre et ne soit pas ultra chargé.
C'est ça. C'est intéressant parce que c'est vrai que ça leur donne aussi à eux, quelque part, une expérience renouvelée, quelque chose de nouveau.
Et des responsabilités aussi. Donc, ces personnes qui étaient moins contentes de ces cultes mosaïques, on les a aussi mises au travail pour qu'elles puissent aussi être des soutiens de ce culte à Bois-Gentil. Plus traditionnel. Donc, ça a été dans un grand dialogue, quand même. On n'a pas, je pense, perdu trop de monde en route. Il y a quelques personnes qui se sont un petit peu mises sur la marge, mais je pense vraiment que l'essentiel de la communauté qui était vraiment là et qui venait vraiment, elle suit le bateau. Elle est entrée dans le bateau. Ça a été vérifié aussi par plusieurs assemblées de paroisses successives où les choses ont été dites, où on a fait des sondages, voilà, ça a été une année où on s'est beaucoup parlé et on a beaucoup expliqué aussi pourquoi on était en train de faire ces changements dont on convenait qu'ils étaient dérangeants pour une partie de la communauté, mais qui avaient un but aussi. Donc il s'agissait de faire aussi entrer l'entier de la communauté dans ce désir, en fait, d'ouvrir les portes et donc d'accepter qu'il fallait modifier certaines choses
si on voulait les ouvrir.
C'est pas un projet solitaire. Vraiment pas ici. Voilà, donc... ça, je trouve que c'est aussi un aspect qu'il faut dire. Et puis dans les cultes, alors justement, on a mis plus de gens au travail dans cette armature liturgique solide, en fait. Donc ça permet ensuite d'avoir on va avoir peut-être une louange camerounaise, je dirais très bizarre, hein, entre guillemets.
Qui n'est pas habituelle pour nous, quoi.
Qui n'est pas habituelle pour nous, mais elle est au bon endroit dans la liturgie. Ouais. Les gens savent ce qu'on est en train de faire.
Oui, c'est ça. Oui, il y a une cohérence.
Il y a une espèce de mélange de sécurité et de nouveauté, en fait, qui est là.
Et je pense pour tout le monde.
Oui, parce que ça va dans les deux sens, parce que les amis, par exemple, érythréens, ils ont été très intéressés et surpris, au fond, par exemple, de la manière dont on prêche chez nous, parce qu'elle est différente. Et ça les intéressait. Donc, les choses ont été dans les deux sens. On a aussi parfois invité le prédicateur camerounais, qui est de passage occasionnellement le pasteur qui coiffe, en fait, les chapelles de l'Église réformée camerounaise à venir prêcher chez nous. Donc pour nous aussi, là, c'est une prédication qui est inhabituelle pour nous.
Ouais, j'allais me poser la question justement de ce fameux proprium des réformés qui tient quand même à la prédication si ça allait jusque-là, mais d'accord. Ouais,
ouais, coup, donc ça va jusque-là. Ouais. Donc de temps en temps, on a eu des choses qui pour nous frottaient un peu. Et je pense que ça fait vraiment partie de l'expérience et d'un certain... Ouais, on est décentré, quoi.
Avec l'occasion de faire quelque chose de ces frottements, parce que c'est une chose que ça frotte et qu'on s'expose au frottement. Enfin, après, soi-même, devant sa conscience, on peut peut-être en faire quelque chose. Mais est-ce qu'il y a des occasions, des lieux d'échange pour approfondir ça ou pas?
Alors, je dirais que oui, on a eu des moments où on en a parlé et je pense qu'il y en aura encore. Pour le moment, c'est pas formalisé, mais ça pourrait peut-être être formalisé si le besoin se fait sentir. Mmh. Ouais.
Et concrètement, dans le choix de cette armature liturgique, dont tu soulignes l'importance là maintenant, quelles étaient un peu les personnes parties prenantes dans la construction de cette armature? Parce que là, j'imagine qu'on peut pas avoir un groupe de 50 personnes qui participent à ça, c'est un petit groupe, j'imagine.
Ouais, là, je dirais que c'est essentiellement quand même le diacre qui est le responsable des cultes mosaïques qui est à l'origine des liturgies. Voilà, ça m'arrive d'en créer une.
Donc Jules, c'est surtout Jules qui s'occupe de ça.
Notre idée, si tu veux, c'était de rendre possible le fait que beaucoup d'intervenants entrent dans la chose, sur une structure commune, en fait.
Mais justement, dans la discussion, il est pas là avec nous maintenant. J'imagine, c'est lui qui sait comment il construit, avec quelle référence.
Elle est extraordinairement classique, en fait, la référence. Donc, on est dans quelque chose qui est commun.
Donc, on a un accueil, on a un temps de louange qui prend plus de place, ça, tu as décrit, et puis ensuite.
Alors, on a un accueil, assez souvent quand même un aspect de confession des péchés et de parole de grâce. On a en général après un gros temps de louange. Ensuite, on a les lectures bibliques, une prédication courte et puis une prédication, plus existentielle et, appelons vraiment à l'action que simplement commentative.
Ouais, d'accord.
Même si on aime bien apprendre quelque chose au passage, mais on reste pas au commentatif, je dirais.
Ou quelque chose des fois esthétique, méditatif aussi, ça, c'est d'autres variantes qui existent. Mais d'accord, donc là, quelque chose avec un message court et un appel à l'action.
Voilà, c'est ça.
Un point avec une pointe existentielle.
Vraiment, on s'efforce à la simplicité. Il faut qu'on soit aussi compris d'un public qui est pas forcément très expert, finalement. Puisque on a commencé à voir maintenant arriver des gens nouveaux. Ça commence, en fait. On est au début de ça. On a recommencé à baptiser. On a des demandes nouvelles. On a des gens qui sont arrivés par Internet. Alors ça, c'est peut-être l'autre chose qu'il faut dire. C'est qu'on a fait un gros travail de présence en ligne qui n'est pas fini, je pense. On a engagé vraiment quelqu'un pour faire ce travail-là parce qu'on s'est rapidement aperçu qu'on n'avait pas les forces de le faire nous-mêmes ni les compétences. Donc, on a engagé un webmaster. On a une newsletter de nouvelles qui part régulièrement. On met des choses en ligne. On a un site internet au top. Donc, voilà. On a une présence Instagram et je crois Facebook aussi.
Et tu dis que des nouvelles personnes arrivent. Avec quel type de profil, du coup?
Alors, les familles sont pour le moment encore... je dirais de manière sont là mais de manière un peu ténue, c'est-à-dire que on a des familles qui viennent mais elles sont un petit peu pointillées, elles viennent, elles disparaissent, elles reviennent, elles disparaissent. Pour le moment, on a encore une certaine difficulté avec les familles à pouvoir créer quelque chose de continu. Apparemment, là maintenant, ce printemps, ça émerge doucement. On a deux familles là qui nous ont dit nous on va être là très régulièrement. Donc, on envisage de recréer la bonne vieille école du dimanche, à savoir d'avoir vraiment un élément cultuel pour les enfants chaque dimanche de culte mosaïque là. Donc, c'est rigolo, hein, on revient à des vieilles formules.
Moi, je me souviens de la question qui est revenue, ça concernait la fréquence de ces cultes. Parce que tu dis qu'il y a les temps pour les communautés, elles. Donc, si j'ai bien compris, pour la communauté réformée historique, c'est plutôt ces temps à bois gentil qui ont été mis en place, mais... Est-ce que donc il y a le culte mosaïque tous les dimanches?
Alors attends, on a beaucoup de célébrations. On célèbre beaucoup de cette paroisse.
Oui.
On a trois cultes mosaïques, c'est les trois premiers du mois. Le quatrième.
Attends, trois cultes mosaïques.
Trois cultes mosaïques ici à Bellevue.
Ok, ouais. Donc sur un mois, oui, ok, donc sur 4 ou 5 semaines, ça fait trois premiers dimanches.
Le quatrième culte, il est pris en charge par un autre ministre, il est de forme traditionnelle, il est à Bois-Gentil le matin.
Voilà, ok.
Mais il a, alors celui-là, il est tradit, ouais. Orgue, tout, ouais. Voilà. Et puis ensuite, le cinquième, il est variable, parce qu'il n'y a pas toujours un cinquième. Et puis on a, à côté de ça, quand on a le culte mosaïque le matin ici, on a un culte traditionnel court, méditatif, voilà. le soir à Bois-Gentil.
Mais le dimanche.
Le dimanche, voilà. Ouais. Je dis traditionnel, et en fait, il est en train de se modifier aussi, celui-là, parce que Pierre Faron, qui est un des animateurs du culte d'en haut, est en train de créer des cultes aussi plus participatifs, avec un élément de Lectio Divina au centre du culte. Mmh. Donc, ils sont aussi en train de bouger, les cultes à Bois-Gentil, mais quand même, ils restent dans une forme plus intérieure.
Oui, puis qui est plus connue pour nous aussi. C'est ça. Qu'on favorise beaucoup aussi dans nos milieux.
Exactement. Et puis, on a encore à côté de ça l'office du matin, puisqu'on a un office du matin du mardi au vendredi à 7h30, tous les matins, avec une petite communauté qui tient ce culte.
Okay.
Et puis, on a une lecture méditative de la Bible et de la prière le jeudi à 11h, avec aussi une petite communauté fidèle.
Donc, en plus de l'office.
Ouais.
Je parlais de ne pas s'épuiser, les ministres.
Et au fait, ouais, mais alors, justement, c'est qu'on n'est pas, les seuls à porter ça.
Voilà, c'est ça.
Dans la paroisse, on a la chance d'avoir une diacre retraitée qui fait beaucoup de visites et donne aussi un coup de main au culte. Le pasteur Pierre Faron, qui avait le projet de venir habiter, et a toujours, je crois, le projet de venir habiter sur le nouveau quartier du plateau de la Blécherette, son arrivée se trouve un peu retardée, mais je crois qu'il en a toujours l'intention. Il est le président du conseil de fondation de Bois-Gentil, et il nous donne un coup de main aussi cultuel là-haut. Et puis on a aussi quand même des solides, je dirais, Michel Coigny, l'ancien des Camerounais, ou Samuel pour les Érythréens, sont aussi des gens qui parfois peuvent nous donner de l'appui et des laïcs engagés. Donc on a tout un, voilà, on a quand même déjà une petite équipe qui est au travail autour des ministres.
Bon, c'est assez impressionnant de voir tout, effectivement, toute l'énergie qui est mise dans le cultuel et la célébration, du coup. Bon, vous avez dit que c'était là-dessus que vous vouliez mettre l'accent. Mais là, maintenant, ça va un pas plus loin, si j'ai bien compris, oui. Ce qui est en train de se passer.
Alors, on a décidé de faire un pas de plus, puisqu'il y avait, enfin, au moment du renouvellement des conseils. Donc, on avait déjà fait entrer comme auditeur libre, en quelque sorte, l'ancien de l'église camerounaise et le pasteur de l'église érythréenne à notre conseil. Donc, ils ont assisté aux séances maintenant depuis plus d'une année. Et on les a élus à notre conseil aux élections de ce printemps. Et puis, on a cherché, en fait, des nouveaux conseillers parce que nos conseillers étaient âgés. On en avait beaucoup qui étaient démissionnaires. Notre conseil renouvelé, en fait, ne comporte plus que, il y a en fait les deux ministres et puis les deux pasteurs des communautés amies qui restent. Puis pour le reste, c'est que des conseillers nouveaux. Et on a essayé de faire en sorte, et ça a bien marché, au fond, d'avoir des gens qui représentent un peu toute la diversité de notre communauté. Donc on a une dame d'un certain âge qui est d'origine camerounaise qui est entrée au conseil. On a une toute jeune dame camerounaise qui, elle, au fond, n'est pas encore très affiliée, mais qui représente plutôt un peu le pôle famille. Elle a des enfants jeunes adolescents. On a une dame qui vient tout à fait de l'extérieur et qui connaît encore très peu l'église et qui, elle, est arrivée par le projet Jardin.
D'accord.
Elle est arrivée, en fait, par intérêt pour le jardinage et pas par intérêt pour au départ, voilà. Et puis, elle a suivi une ou l'autre petite formation qu'on proposait ici, notamment une formation autour de la méditation qui a été donnée par Laurent Jouvet ici, et à laquelle elle est venue. Donc c'est par là qu'elle est entrée. Et puis on l'a fait entrer au conseil très vite, en fait, parce qu'on trouve que c'est une voix précieuse. Elle est vraiment celle qui porte la voix de ceux qui ne sont pas. Donc ça nous est très utile. Et puis elle a un regard extérieur sur ce qu'on fait, parfois des capons. Il y a des choses qu'elle voit que nous ne voyons plus. Donc ça, c'est très utile. On a fait entrer une nouvelle dame, aussi une dame plutôt, je sais pas si elle est déjà retraitée ou futurement prochainement retraitée, qui elle a plutôt un profil traditionnel. Donc elle, elle est vraiment la porteuse plutôt de la voix de l'Église réformée classique. Les deux pasteurs, qu'est-ce que j'oublie ?
Donc tu dis les voilà, deux pasteurs, donc le pasteur de l'Église pentecôtiste.
Voilà. Et puis l'ancien de l'Église camerounaise.
Un ancien, oui, parce que tu, oui, parce que le pasteur est.
Le pasteur, il est vénéré chez eux.
Voilà, c'est ouais. Ça, ouais.
Eux, ils sont des chapelles, en fait. Puis l'ancien, c'est lui qui est responsable de la chapelle voilà. D'ici. Mais le pasteur,
le
lui,
de référence.
Ouais, le pasteur, lui, il circule. Et puis bon, Jules et moi. Et puis j'oublie sûrement quelqu'un. Mais disons, ça fait que notre conseil, il est vraiment représentatif aussi des courants qui nous traversent.
J'allais dire, c'est un conseil qui est formé par les voilà les différentes activités qui composent ouais. Cette paroisse, différents groupes qui se rassemblent sur cette paroisse.
Voilà, c'est ça. Mmh. Ah oui, j'oublie. Alors j'oublie effectivement deux personnes qui sont entrées tout récemment, qui sont entrées au dernier moment. Encore une dame retraitée qui porte vraiment beaucoup l'office du matin.
Voilà, ouais.
Ouais. Et puis un monsieur qui lui apporte des compétences plutôt pour les finances et qui est aussi quelqu'un qui vient d'arriver, je dirais, c'est quelqu'un qui est un recommençant du point de vue de la fréquentation d'une église réformée.
C'est quand même parce que je trouve c'est une innovation qui est quand même à relever parce que c'est rare qu'on donne de la je ne sais pas, c'est la première fois que j'entends que dans un conseil de paroisse on donne de la place à des membres d'une autre identifiée comme autre communauté, ce qui leur tout d'un coup ce qui leur donne de la place, enfin ça redessine en fait les contours de qu'est-ce que c'est que cette paroisse. Ouais. Alors on voit bien qu'il y a enfin le conseil n'est pas le représentant d'une communauté.
Non.
Qui et puis au conseil on attend qu'il y ait certaines compétences qui soient représentées pour faire tourner la baraque. Non, le conseil représente une diversité de communautés.
Ouais.
Mais ça change sa fonction, ça change peut-être son travail aussi.
Alors oui, ça change sa manière de travailler, c'est-à-dire que on a créé des dicastères, ce qui n'était pas le cas avant de l'ancien conseil. Donc on a vraiment des responsables de dicastères qui ont de l'autonomie dans leur dicastère. Donc ils reportent en fait les questions qui animent leur dicastère au conseil, mais ils ont une certaine latitude de décider des choses et de mener leur dicastère comme ils l'entendent. Et ils ont ensuite des bénévoles, voilà, qui travaillent avec eux. Donc, ils ont des vraies responsabilités. On a essayé de mettre en place quelque chose de participatif pour le nouveau conseil. Je pense que c'est un nouveau conseil où on n'a vraiment pas fini de découvrir ce qui va se passer, puisqu'on est avec des personnes qui n'avaient jamais fait ce travail-là.
Mm-hmm.
Donc, on est avec des personnes qui découvrent un peu le côté institutionnel du fonctionnement de notre Église. Mais, voilà, qui apporte les mêmes couleurs de diversité qu'on a au culte, finalement. On a aussi mis en place un petit conseil pastoral où on se voit parfois les quatre responsables des trois communautés concernées. Et là, c'est des fois pour régler des questions très pratiques. Par exemple, on a décidé, c'est des choses finalement à la fois très terre à terre, mais très importantes dans la vie réelle des communautés. On a décidé qu'on allait mettre en commun tout ce qui concerne les après-cultes. Donc, maintenant, on a un pot financier commun avec lequel on achète les choses qu'il faut pour les après-cultes et chacun puisse selon ses besoins et contribue selon ses capacités à ça.
Mmh.
Et c'est géré ensemble, alors qu'avant, on avait des armoires séparées. C'est des petites choses, mais ça, c'est des signes vraiment importants. Du fait qu'on est vraiment... Maintenant, on travaille dans le même bateau,
c'est
en
ça.
Fait.
La mise en commun des biens, ça fait partie de
ouais.
ces traits de la première communauté
oui.
dans le livre des Actes.
mmh. Oui.
À quoi peut ressembler... Donc, une autre question d'abord, c'est... J'ai parlé des frottements éventuellement pendant le culte, voilà. Est-ce que dans ce cadre-là aussi, s'il y a des choses... Bon, c'est peut-être un peu tôt pour dire, en fait. Hein, mais ça fait quand même une
c'est
année que vous travaillez ensemble.
Oui, c'est
hein,
peut-être
donc...
un peu tôt pour dire. Mais par exemple, je donnerai un exemple. Je pense que éthiquement, la communauté pentecôtiste, elle a des positions plus traditionnelles que la nôtre, en fait. Donc, par exemple, on est attentif peut-être à ça, un peu différemment que si on était tout seul, pour pas choquer, simplement. Donc, je donne un exemple. On a des grandes fêtes tamoul la communauté tamoul de Lausanne a découvert que notre salle était vraiment cool.
Mmh.
Alors, ils viennent faire plein d'anniversaires, de mariages et de trucs chez nous. Et du fait de la présence des Érythréens, on s'est posé la question en fait de savoir s'il y avait des éléments cultuels qui étaient vécus sur place ou pas.
Durant les anniversaires, enfin, les anniversaires tamouls. Ouais.
Parce qu'il y avait des statues, etc., puis qu'on savait pas très bien au fond ce qu'ils en faisaient, en fait. Et bah, ça a été un sujet de discussion entre nous, de savoir comment on allait, enfin, est-ce que ça les choquait? Oui, ça les choquait, en fait. Mais après, on s'est dit, on sait pas, en fait, ce que font les tamouls ici, exactement. Donc, on est parti se renseigner, chose qu'on n'aurait jamais faite avant.
C'est ça. Ouais. Ouais, parce qu'au fond, ça les concerne. Parce qu'au fond, nous, ça nous
c'est ni chaud ni froid. Mais comme c'était important pour eux, ben, on est parti s'enseigner. Et on a mis des règles plus claires sur ce point-là, pour que ça soit agréable pour eux. Puis,
parce voilà, que l'enjeu de qu'est-ce qui est fait dans l'espace, il me semble, n'est pas, enfin, c'est pas anodin, ce qu'on invoque spirituellement, ce qu'on pratique comme rite.
Pour un réformé bontain comme moi, ça, je peux vivre avec ça, mais par exemple, pour Samuel, le pasteur érythréen, il voit pas les choses comme moi sur ça.
Ouais.
Pour lui, il y a un combat spirituel.
Oui, c'est ça. Ouais. Et puis, enfin, là.
Donc ça, c'est des petites nuances qu'on apprend, voilà, qu'on s'écoute mutuellement. Alors, je pense que c'est important pour les deux parties, c'est-à-dire que Samuel écoute que moi, je vis pas les choses de la même manière que lui sur ça. Et puis que, par exemple, que je peux avoir un souci d'ouverture vers les tamouls qui est pas le sien. Et puis moi, j'entends que pour lui, il y a un enjeu spirituel que moi, je voyais pas. Alors, ça va pas forcément complètement modifier ni la position de l'un ni la position de l'autre, mais par contre, je vais prêter attention à ça alors qu'avant, j'y prêtais pas attention.
Et qu'est-ce qui permet de rester dans le lien? Alors, j'imagine que là, tu parles de respect et d'écoute. Apparemment, c'est pas suffisamment choquant pour casser le lien entre vous, ce qui se passe.
Non, parce que je pense qu'il y a vraiment une amitié qui est née. Il y a de l'affection en fait dans cette affaire. On s'est invité les uns les autres. On se voit dans d'autres moments que le culte. Et puis, je dirais qu'on a noué des liens qui sont au-delà de ce qu'on fait ensemble culturellement, par exemple. J'ai eu la grande de Samuel pour quelques cours d'appui parce qu'elle démarrait le gymnase. Ses enfants sont venus avec moi au labyrinthe lumière. Il m'a invité à manger. Ouais.
À tout ce niveau, la relation personnelle, bon, comme tu dis, l'amitié, c'est le bon terme.
On a partagé avec Michel Kouani de l'Église réformée camerounaise.
Qui est l'ancien de l'Église.
Il nous a accompagnés dans le voyage que la paroisse a organisé en Israël. Donc, on a partagé 10 jours en Israël. Donc, tout ça, ça crée des liens personnels forts, en fait, qui aident beaucoup, qui mettent de l'huile dans les rouages.
Mais qui simplement de la confiance après.
C'est ça, et de la confiance, ouais. Alors ça, le mot confiance, il est vraiment super important parce que je pense que, j'ai ressenti que quand je suis arrivée, malgré le fait que on avait de bonnes intentions, envers les deux communautés amies, il n'y avait pas beaucoup de confiance. Disons, il y avait une certaine méfiance même, peut-être. Voilà. Alors, je pense qu'on a vraiment consciemment décidé qu'on passait dans un régime de confiance, qu'on partageait plus de choses. Et puis, quitte à ce que de temps en temps, il y ait des trucs où on doit se dire que ça marche, ça va pas.
Mais ça passe quand même par le fait d'inviter l'autre chez soi, fondamentalement.
Oui, je pense vraiment. Ouais. Mais ce qui est bien, au fond, c'est qu'on est invité chez soi, mutuellement. Et puis, c'est là où on est en train de trouver un autre équilibre que ce qui se fait habituellement.
Parce que, justement, en régime de réciprocité, vu qu'on est maintenant vraiment dans une intégration, en tout cas du côté de l'Église réformée des différentes communautés, la réciproque, enfin, qu'est-ce que ça voudrait dire, du coup, la réciproque? Est-ce que vous allez aussi dans les conseils respectifs ou pas? Alors, forcément, ça n'aurait pas de sens, hein,
Pour être honnête, je pense que c'est quand même l'Église réformée qui est le creuset dans lequel on vient faire le melting pot. Nous, les ministres, on rend visite dans les cultes des autres de manière délibérée pour qu'il y ait un lien qui aille aussi un peu dans l'autre sens, mais je pense qu'on peut pas dire que la communauté le fasse.
Ouais.
On avait dit qu'à un moment donné, il y a les cultes camerounais à 14h, si vous voulez. Ils sont ouverts, c'est une liturgie et une manière de célébrer le culte qui est finalement assez proche de la nôtre. Elle est même parfois plus traditionnelle que la nôtre. Mais au fait, je pense pas qu'il y ait vraiment beaucoup de nos paroissiens qui fassent vraiment l'aller-retour.
Mais du coup, c'est vrai que l'enjeu, c'est où sont les points de rencontre de ces différentes communautés.
Je dirais quand même que les points de rencontre, ils sont au fond territorialement chez nous.
Ouais.
ou dans le temps, territorialement et espace, dans les moments. Ils sont quand même chez nous.
Bon, et puis
c'est la maison on a ouvert notre maison pour qu'elle devienne une maison commune, mais ça reste que c'est notre maison qui a été ouverte.
Oui, c'est ça. Et puis, de fait, historiquement présent ici avant les autres communautés, c'est cette communauté-là, en tout cas cette institution, ces bâtiments, et puis son ancrage, son lien avec la ville. Enfin, il y a énormément de choses qui sont facilitées aussi par le biais de l'Église réformée dans ce cadre-là.
Sous cet angle-là, ça reste un service qu'on continue de rendre, au fond. Cet accueil de nos locaux, le fait que... Mais par exemple, la sono, autre point important des cultes mosaïques, puisqu'on a mis des écrans, on a mis une sono super, etc. La ville nous a aidés aussi, on a une magnifique sono pour les malentendants. Là, on a du matériel partagé. C'est-à-dire que... C'est l'Église réformée qui a financé les nouvelles grandes télés, mais il y a une contribution importante des Érythréens dans l'achat. Nous bénéficions du matériel de sono des Érythréens qui sont meilleurs que nous dans ce domaine, mais ça bénéficie à tout le monde. Donc là, on a fait des. Enfin, là, il y a eu des choses.
Il y a du croisement de ressources, quoi.
Il y a eu des croisements de ressources, oui.
Quel est. Bon, ça commence, hein, le nouveau conseil vient d'être élu.
Oui, on peu de recul encore.
Mais de ce que tu vois. Qu'est-ce qui se profile pour l'avenir de cette communauté? Bon, peut-être en termes de défis. Qu'est-ce que tu sens encore?
Alors moi, je dirais que pour moi, le grand défi, il est vraiment de garder en fait toutes les pièces du puzzle bien assemblées. Donc ça veut dire que je pense qu'il faut continuer de beaucoup expliquer, de beaucoup se parler, d'oser se parler quand il y a un conflit, quand il y a quelque chose qui se passe pas comme ça devrait. Je pense qu'il y a des connaissances aussi à apporter, notamment pour le nouveau conseil. Je pense peu à peu, ils vont aussi capter le fonctionnement institutionnel des choses. On le découvre en faisant. Hein. J'avais jamais encore vécu une élection de conseil, par exemple. Ça a été ma première dans une position de ministre. Donc, moi aussi, j'apprends. Je dirais... une bonne communication entre nous est extrêmement importante et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a créé ce conseil pastoral en plus du conseil de paroisse, parce qu'on a plusieurs lieux en fait où on peut dialoguer à différents niveaux et puis pour pouvoir réguler les choses en fait de manière correcte
et avec les autorités reconnues aussi de part et d'autre.
Exactement.
Ça oui. C'est au niveau des défis que tu sens venir.
Après, disons dans les défis, il y a quand même, je pense que les familles restent un défi, et un défi pas résolu à mon avis. Les familles d'aujourd'hui, c'est pas évident. Hein. Si elles te donnent leur numéro de téléphone, elles te donnent pas leur courriel. Si elles te donnent leur courriel, elles te donnent pas leur adresse. Enfin, on est dans un monde du zapping, là. Vraiment, nous plein, je dirais, que cette génération-là. Donc... le zapping et la profondeur que nécessite l'évangile, c'est quand même deux choses qui coexistent pas toujours très bien. Donc là, on a un défi de réussir à pouvoir faire sentir aux gens ce qui est à recevoir là, pour qu'à un moment donné, ils décident de nous faire une priorité et d'y adhérer. Donc, pour les familles, je dirais que c'est pas gagné, c'est un travail en cours. Je pense que on a réussi maintenant à créer un biotope dans lequel on peut arriver et se sentir bien en tant que famille. Mais encore faut-il maintenant qu'elles perçoivent le trésor qui est à venir chercher là. Et ça nécessite aussi qu'on puisse leur parler dans un langage qu'elles comprennent. On a un certain nombre des jeunes qui viennent d'arriver, qui sont en cours d'affiliation, qui se sont inscrits à du catéchisme pour adultes, qui est proposé là dans la région lausannoise. Les arrivants ne sont pas forcément les familles qu'on attendait aussi. Il faut dire ça aussi, c'est que, en fait, finalement, cette ouverture, cette espèce de présence, la présence qu'on a créée en ligne, les efforts qu'on a faits pour réouvrir les fenêtres sur le dehors, elles ont fait entrer des gens qui n'étaient pas forcément ceux qu'on attendait, mais il y a des gens qui entrent, donc il faut les prendre aussi comme ils sont, ceux qui arrivent. Donc on a aussi des jeunes plus âgés qui sont venus, mais des jeunes qui sont plutôt sexas ou quinquagénaires et qui renouent, qui disent « Ah tiens, il se passe quelque chose là ». On a aussi un ou deux jeunes qui sont arrivés, des grands jeunes, des jeunes adultes. qui n'ont pas de maison, dont une jeune fille, par exemple, qui s'est convertie sur Internet, puis qui, par hasard, habite là dans le quartier, qui a atterri chez nous. Donc, les arrivants sont un peu imprévisibles. Et après, voilà, donc, on sait, y a, pour nous, en fait, on vit une certaine... je pense aussi qu'on se laisse un peu guider par l'esprit, et finalement, on ne sait pas très bien où on va.
Mais avec confiance.
Mais on y va avec confiance,
peut-être, oui. Ça, je vais te laisser. On va finir avec cette dernière question par rapport au visage de l'Église qui se profile dans ce que vous vivez ici, l'Église qui arrive là. À quoi est-ce qu'elle ressemble ?
Je pense qu'elle ressemble à une maison accueillante. J'aimerais qu'elle ressemble à une maison accueillante. Je pense qu'elle est aussi une maison où on partage. Parce que dans la communauté qu'on est, finalement, on a des gens qui ont des compétences très diverses, mais qui les mettent en commun. Puisqu'on a des gens qui ont des... Je pense que c'est une paroisse où se rencontrent certaines pauvretés avec certaines richesses. Et c'est pas toujours celle qu'on croit, peut-être. Donc, en fait, moi, je dirais que j'ai ressenti que ma pauvreté spirituelle s'était rencontrée avec une certaine richesse spirituelle chez nos amis érythréens et camerounais. Pendant que peut-être ma richesse culturelle s'était rencontrée avec une certaine pauvreté culturelle chez d'autres, de ceux qui sont là. Peut-être que ma richesse, je dirais, ma richesse d'équilibre dans la vie s'est rencontrée avec la pauvreté. Peut-être, on a pas mal de gens avec des soucis psychiques dans notre communauté. Donc ça, c'est aussi une pauvreté, une richesse qui se sont rencontrées. Mais peut-être que celui qui avait, par exemple, des soucis psychiques, il m'a apporté, par exemple, du temps que je n'ai pas. Donc voilà, je trouve que là, il y a beaucoup d'échanges, finalement, qui se produisent. Et c'est ça, au fond, que je trouve être peut-être la couleur de cette communauté-là. Je pense qu'il y a une place pour des gens très divers.
Et une maison de partage.
Et une maison de partage.
L'innovation dans l'Église réformée d'aujourd'hui implique notamment de savoir rejoindre de nouveaux groupes, de faire le lien avec des personnes que nous ne connaissons pas, de les rencontrer et évoluer avec eux, voire de tisser des liens d'amitié. Dans tous les cas, il faudra faire de la place et laisser l'autre prendre cette place. Dans cette paroisse de Bellevaux-Saint-Luc, il me semble qu'un nouveau sens d'une Église multitudiniste, d'une Église pour tous et pour toutes se développe, une Église pour tous et pour toutes qui est peut-être un peu plus cosmopolite que nationale. Pour le prochain entretien, je vais partir à la rencontre de Carolina Costa à Genève. Je vais échanger avec elle sur son parcours, sur les différents outils qu'elle a développés avec son mari, Victor, et sur le fait d'utiliser sa propre personne pour communiquer l'Évangile. Si cet épisode vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter ou à m'écrire directement à l'adresse helio.jaillet@evref.ch pour partager vos réflexions, vos impulsions, vos expériences. Et nous, on se retrouve en tout cas d'ici un mois. Salut !